te réponds d'abord quelques petites questions. De la dernière fois que je vous ai parlé, en quel sens notre grâce chrétienne est-elle mariale? Parce que Marie est la première. Nous sommes tous dans ce régime nouveau qui a commencé par la maternité de Marie. Ce régime nouveau qui est le régime de la grâce chrétienne. Avant, vous aviez la grâce chrétienne qui était promise, mais on ne savait pas exactement comment ça se passerait. C'était une prophétie, donc c'est une grâce d'attente. Elle était chrétienne dans le regard de Dieu, mais elle n'était pas explicitement chrétienne pour les hommes. La grâce d'Abraham est une grâce d'attente. Pour lui, Abraham a la grâce chrétienne. Moïse a la grâce chrétienne. Ils ne le savent pas. Bon. Du côté divin, il y a la grâce de justice originelle et puis la grâce chrétienne. Il n'y a pas trois grâces, il y en a deux. C'est, je crois, ce qu'on doit dire. Je crois que la grâce d'Abraham, de Moïse, est une grâce qui n'était pas explicitée, elle n'était pas dévoilée, mais elles sont en vue de la grâce chrétienne. C'est sûr. Donc, du côté de Dieu, elles sont déjà la grâce chrétienne. Mais elle n'est pas explicitée. Alors, il y avait avant le péché originel, il y avait la grâce de justice originelle. Donc, deux types de grâce. Il n'y en a pas 36. Il y en a deux. La grâce d'Adam et Ève est une grâce qui vient surélever, sanctifier la nature humaine parfaite pour que Adam et Ève soient fils bien-aimés de Dieu en étant parfaitement hommes. La grâce de justice originelle, au point de départ, est une grâce qui affine la nature humaine et la rend porteuse de la grâce surnaturelle. Et il y avait une harmonie merveilleuse entre la nature et la grâce, comme montée. La grâce chrétienne, au contraire, je ne dis pas que c'est une grâce sans l'harmonie, mais c'est une grâce qui vient d'en haut. Dieu, dès le point de départ, a voulu nous sauver d'une manière invraisemblable par le Verbe incarné. Mais il a révélé son mystère en lui faisant attendre 2000 ans. Et on doit lire tout ce qui s'est passé avant nous dans cette vision de la grâce chrétienne. La grâce d'Abraham est une grâce chrétienne. La grâce de Moïse est une grâce chrétienne, mais imparfaitement développée. Elle est dans le devenir. Mais c'est une grâce chrétienne. En vue du mystère de l'incarnation. Donc vous voyez, je crois que pour nous, il y a la grâce angélique. La grâce des anges est proche de la grâce de justice originelle. C'est du même. La grâce des anges est une grâce qui perfectionne leur nature angélique. Du chrétien, je peux parler des anges. La très grosse différence, je crois qu'il faut entrer là, la très grosse différence, si vous voyez, c'est que la grâce de justice originelle, c'est Dieu qui permet à la nature humaine d'être assumée par la grâce, d'être transformé par la grâce. Donc c'est une grâce qui rend fils de Dieu et qui permet d'être parfaitement le développement de la nature angélique et de la nature humaine. Tandis qu'avec le péché, avec la grâce chrétienne, c'est par le Fils bien-aimé du Père que tout est sauvé. Mais alors, point de vue schéma imaginatif, vous voyez, on peut dire, d'un côté, c'est la grâce qui perfectionne la nature et qui atteint sa finalité, enfant de Dieu. Donc c'est une montée. De l'autre côté, c'est vertical, c'est la descente de Dieu au milieu de nous. J'aime bien ce deux schémas, parce que ça nous aide à comprendre. Et ça fait vraiment deux chaînes tout à fait différents. Mais la grâce peut monter par la nature. La grâce peut venir directement de Dieu sur la nature. Deux manières de la concevoir. La grâce fait monter la nature et l'assume pleinement. Et la grâce descend directement de Dieu parce que notre pauvre nature humaine est blessée et a refusé Dieu. Le péché originel fait que notre nature humaine, la nôtre, a refusé Dieu. Donc si notre nature humaine a refusé Dieu, Dieu ne peut venir que d'une autre manière, par Dieu et non plus par l'homme. La grâce de justice originelle permettait à l'homme d'être source de la nature humaine et de la grâce. Le Père, selon la nature, était prêtre et donnait la grâce à son Fils. C'était très beau. C'était une merveille. Grâce chrétienne est encore plus belle. Ce n'est plus l'homme qui, donnant la nature, donne la grâce. L'homme donnant la nature, Dieu l'a laissé, ça. La nature est communiquée par l'homme. L'âme est créée par Dieu. De toute façon, l'âme aurait été créée par Dieu. C'est évident. n'est plus confié au père de famille. La grâce vient, elle est confiée au Christ. C'est le père de famille qui est ébranlé. Le père de famille aurait été magnifié autrement par la grâce, puisqu'il était source de l'humanité et de la grâce. Tandis qu'il a perdu sa dignité, puisque il ne peut communiquer qu'une nature blessée, qu'une nature sans le secours de Dieu, qu'une nature révoltée. Et c'est Dieu qui, par son Fils, vient nous sauver. Alors, voyez comment le mystère de Dieu est devenu plus proche de l'homme. En ce sens que c'est Dieu lui-même qui donne la source de la grâce. Et il confère à des hommes le sacerdoce pour qu'ils communiquent la grâce. Mais le sacerdoce n'est pas lié à notre paternité humaine. Et même le sacerdoce venant directement du Christ, Dieu réclame la vie religieuse. La vie religieuse n'aurait pas existé en justice originelle. Il y aurait eu la vie de famille, ou parfaitement réalisée. Et on garde dans son cœur toujours une nostalgie de la vie de famille. Puisque notre nature humaine a été créée d'abord pour ça. Donc notre nature humaine a une nostalgie, mais très très profonde, très très radicale, de la famille. Et ce serait intéressant, du reste, de voir comment cette nostalgie renaît sous des formes du reste très diverses, mais elle renaît. Parce que le premier dessein de Dieu, c'est vraiment ça. C'était de faire que le père de famille soit un petit roi. Et le père de famille garde toujours un petit peu cette dignité d'être un petit roi. Pater familias. Parce que c'est très étonnant de voir, vous voyez, comment avant la venue du Christ, dans l'Ancien Testament, on voit toutes les petites pointes. Le Christ apportait quelque chose de net. Mais avant, on est dans l'incertitude, c'est pas net, on ne sait pas qui nous sauvera. Alors, la nature pécheresse essaie de retrouver ses droits, indépendamment de la grâce. Je crois que c'est très important pour comprendre existé 2000 ans avant le mystère de l'Annonciation. Au fond, les tentations avant et les tentations après ne sont pas les mêmes. Vous voyez ? C'est toute la différence entre les deux. La tentation avant, c'est le père de famille qui veut retrouver sa dignité. Il a été roulé par la femme, il veut retrouver sa dignité. Il veut retrouver sa dignité d'homme, de roi. Ce désir d'être roi, d'être un père de famille parfait. L'autorité. Parce que ça, c'est net, c'est un moment que Dieu ne voulait pas ça. Mais c'est pas étonnant, parce que Dieu voulait qu'on attende le Messie. Il y a un seul qui est roi, c'est le Christ. C'est pas là. Donc, la royauté, c'était une fausse réalisation. Puisque dans la grâce chrétienne, le seul roi, c'est Jésus. Je crois que ça doit être très, très net, ça. Et ce serait très intéressant de faire cela. Là, vous voyez, en faisant ça, il y a une véritable intelligence divine, donc théologique, parce qu'au fond, la théologie, c'est une intelligence divine du mystère. On sait que le mystère reste toujours un mystère, mais on veut en avoir une intelligence divine. Enfin, une intelligence divine de cette grande attente. Alors, du côté de Dieu, Dieu éprouve l'homme. C'est vrai. Pendant 2000 ans, Dieu a éprouvé l'homme. Et pendant 2000 ans, l'homme a plus ou moins bien attendu. C'est long. Attendre 2000 ans, la réalisation de la promesse. Et je crois que les tentations de l'attente sont différentes des tentations actuelles. Autrement dit, si vous voulez, il y a deux attentes, l'attente du Sauveur et puis l'attente du retour du Christ. L'attente. L'attente du Sauveur, c'est parce que l'humanité a la promesse de Dieu que Dieu viendra l'aider, mais ne sait pas comment. Et alors, cette incertitude fait naître des réalisations fausses. Comment ? Tandis que les tentations pour nous, c'est les tentations de comprendre que la gloire présuppose la croix et que Jésus nous a montré que pour entrer dans la gloire, il fallait passer par la croix. Mais que la gloire n'est pas sur la terre. Notre Église n'est pas une Église glorieuse. On s'en aperçoit vite, du reste. Ce n'est pas une Église glorieuse. C'est une Église qui doit être fidèle à l'attente de la gloire. Alors, il y a une attente de la gloire. Et cette attente de la gloire doit être précisée par la théologie mystique. Parce que ce n'est pas une théologie de la gloire. Puisque je n'ai pas l'expérience de la gloire. Et au point de vue de la foi, je sais que la gloire est donnée après la croix. Jésus, au point de vue de la gloire, ne revient que par moment, que par une série de rencontres. Et il faut avoir ça toujours devant les yeux, hein, puis préciser petit à petit cette attitude différente de la grande attente du Messie. Et nous, ce n'est plus tellement l'attente, parce qu'il est venu, c'est la fidélité. C'est la fidélité et l'attente à ce qu'il revienne. Et les deux attentes sont très différentes. Deuxième question. Pouvez-vous reprendre ce qui caractérise le mode de la grâce juive ? Je n'aime pas la terminologie grâce juive. Je vois très bien ce que ça veut dire. Ça. C'est vrai, c'est la grâce d'attente, c'est la grâce imparfaite d'attente, puisque rien n'est réalisé. Alors, la grâce juive, c'est notre grâce chrétienne. Il n'y a pas de grâce juive. C'est notre grâce chrétienne qui est donnée et communiquée au peuple choisi, au peuple juif, au peuple choisi pour recevoir celui qui donnera la plénitude de grâce. Parce qu'elle est donnée à la suite d'Abraham, à la suite de Moïse, à la suite des prophètes. Elle est donnée incoativement. Elle n'est pas parfaite. Elle est donnée incoativement. Elle doit devenir parfaite. Elle attend le Messie. Donc, c'est dans sa finalité qu'elle est parfaite. Mais c'est toujours dans la finalité. C'est dans la finalité que notre grâce chrétienne est parfaite aussi. Autrement, nous avons une grâce incoative. Vous voyez ? Alors, les deux incoativités, si j'ose dire, l'incoativité de l'Ancien Testament, l'incoativité de l'Église, ces deux incoativités sont différentes. L'incoativité de l'Ancien Testament, c'est une incoativité au point de vue du mode de la grâce qui n'est pas donnée à partir de sa source propre. Elle est donnée à partir de sa source propre, mais pas explicitement. Ils ne connaissent pas le Sauveur. Ils attendent le Sauveur. Donc ils ne savent pas d'où vient cette grâce. En réalité, cette grâce, elle vient du Sauveur. Mais ce n'est pas explicite. C'est une situation très pénible, qui exige beaucoup de foi. Et c'est ce qu'on voit chez les vrais croyants juifs. Ils ont une très grande foi. Il y a une foi en la promesse. Il y a un Sauveur. L'incoativité de notre grâce chrétienne, c'est par rapport à la gloire. Et il y a donc une incoativité par rapport au salut. Et nous, c'est par rapport à la gloire. Alors ce serait ça qui serait intéressant à étudier. Parce que ça éclaire quand on veut étudier les deux. Et ça éclaire ce que c'est que la grâce. Mais des deux côtés, c'est incoatif. Mais d'une façon tout à fait différente. Alors, l'incoativité, je dirais, de la cause formelle, et l'incoativité de la cause finale. Alors, il est bien évident que l'incoativité formelle implique l'incoativité finale. L'incoativité finale n'implique pas l'incoativité formelle. Mais j'emploie exprès ça pour que ce soit plus précis pour vous. Je crois que nous devons faire grande attention, nous, c'est au réalisme de la finalité. Ce que le peuple d'Israël devait faire grande attention, c'était à la perfection de la cause formelle. Si vous avez des questions, écrivez-les, hein, parce que nous essayons de travailler ensemble. Que signifie que Marie, au niveau de la grâce chrétienne, est première dans l'immanence? Ce qui est premier dans la grâce, c'est Jésus. Source transcendantale de la grâce. Il est l'homme-Dieu. Mais Jésus ne vient pas des hommes. Il ne vient pas par la procréation humaine. Jésus vient du Père. Et le Père a voulu que Marie coopère. C'est une miséricorde infiniment grande d'avoir voulu que Marie coopère comme mère. Puisque c'est donc mettre l'humanité dans le coup. Plonger notre humanité dans la miséricorde et la gratuité absolue. Et la maternité de Marie doit être vue dans cette lumière. C'est-à-dire dans cette gratuité, c'est Dieu lui-même qui se déplace, c'est Dieu lui-même qui vient nous sauver. Puisque l'homme est incapable de se sauver par lui-même, c'est Dieu lui-même qui veut nous sauver lui-même et nous sauver de la manière la plus proche de nous pour que nous ne soyons pas terrifiés Marie, c'est ce mystère de miséricorde, hein, absolu. Dieu veut qu'elle soit tirée des hommes et qu'elle soit pure attente du Sauveur, immaculée. La pureté de l'espérance de Marie assume toute l'attente de son peuple dans une pureté unique. Et c'est très beau ça, parce que cette pureté de l'attente, c'est la pureté du désir. Il faut que Marie porte ce désir de tous les prophètes dans une pureté renouvelée. Soit la pureté quand même des hommes, mais tout immaculée. C'est extraordinaire comme, au fond, ce mystère de la maternité divine de Marie a été fruit de la sagesse du gouvernement divin. Je crois que c'est cela qui doit nous faire comprendre la sagesse du gouvernement divin. C'est la maternité divine de Marie. Dieu aurait pu très bien le faire autrement. Mais Dieu a voulu ça. Donc, c'est du côté de la disposition, au sens fort, que Dieu a voulu que sa miséricorde soit total. Marie est immaculée. L'attente d'Isaïe est très belle. L'attente des grands prophètes est très belle. Mais elle ne suffit pas pour Dieu. Il faut l'attente d'une petite vierge toute pure. Et ça, c'est un des aspects très beaux du mystère de Marie. Marie, quand elle est dans l'attente, avant l'Annonciation, sa grâce, la pureté de sa grâce, la plénitude de sa grâce est déjà là, mais elle n'est pas explicitement chrétienne. Dieu a voulu ça. Donc, il y a une première période, premier aspect de la vie de la Très Sainte Vierge, où vous avez la grâce chrétienne qui n'est pas encore explicitée et qui est dans une pureté totale, vécue par Marie. Et c'est ça que nous avons essayé de percer pour comprendre ce mystère d'attente de Marie. Fait partie de la grâce chrétienne. Tu as voulu que ce soit comme ça. Et combien la grâce chrétienne, Dieu a voulu que l'homme, que la femme, que la nature humaine, dans ce qu'elle a de plus profond, de plus vrai, coopère à cette grâce. Et dans le désir. C'est peut-être pour ça que Dieu fait que le peuple d'Israël ne soit pas entièrement converti et aspirent à l'arrivée du Christ. Ils restent dans cette pureté d'attente. C'est très mystérieux. Et ça, c'est pas d'attente. Il y a un respect. On doit essayer de comprendre. Il y a sûrement une signification profonde à ça. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait avec sa sagesse. Et donc il a voulu cette période d'attente toute pure dans le corps de Marie. Et Marie est pleinement de son peuple. C'est pas parce qu'elle est toute pure qu'elle n'est plus de son peuple. J'ai entendu ça. Et ça, c'est pas juste. Parce qu'on va dire, oh Marie, elle est tout à fait d'un autre ordre. Non, elle a une nature humaine. Et en tant qu'elle a une nature humaine, elle est notre sœur. Et elle est à l'égard du peuple d'Israël, du peuple juif, du peuple béni par Dieu, elle est la plus parfaite de son peuple. Alors, son peuple a été voulu par Dieu pour être l'attente du Sauveur. L'attente, avec une majuscule, attente. Dieu a voulu qu'il y ait cette grande attente. Et que cette grande attente soit finalisée de l'intérieur. Et c'est pour ça que Marie est du peuple de son peuple et qu'elle est immaculée pour que l'attente soit toute pure. Et je crois que cela montre combien Dieu a voulu la coopération de l'homme dans le mystère de l'incarnation. C'est très net avec Marie. Et c'est très net pour le peuple d'Israël. Dieu a voulu que cette attente ait sa finalité immanente. Elle fait partie du peuple qui attend. Et dans l'attente, elle est la plus parfaite. Donc, elle est celle qui a attendu le Messie de la manière la plus profonde, la plus radicale. Marie était toute attente. Et Dieu a voulu que dans cette attente, elle soit immaculée. Et vous voyez que la fin de cette attente soit toute pure. C'est une volonté de Dieu, ça. Elle a été mystérieuse de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il voulu ça? Il y a eu en Marie une pureté étonnante du désir. C'est, je crois, pour montrer la grandeur du désir. Catherine de Sienne parle du désir et qu'elle montre que le désir est peut-être en nous ce qu'il y a de plus parfait. Parce que les réalisations sont toujours moindres que les désirs parfaits. Il n'y a que pour Marie où la réalisation à dépasser le désir. Alors là, je crois qu'il y a une profonde volonté de Dieu pour nous. Dieu a voulu que Marie soit parfaite dans l'attente. Et elle l'est, immaculée. Le Sauveur avec un désir extrêmement pur, une espérance extrêmement pure. Et cette espérance n'a pas été déçue devant la réalisation, parce que la réalisation était encore plus parfaite. Marie attendait un sauveur, Marie n'attendait pas le Fils de Dieu. Donc, toute la différence entre un sauveur et le Fils de Dieu. Et je crois que là, Marie est modèle pour nous. Quand Dieu met dans notre cœur un très grand désir, une très grande soif de sainteté, un vrai désir de sainteté, un vrai désir du martyr, un vrai désir d'être pleinement dans sa vie religieuse, Dieu ne peut pas décevoir ce désir. La grâce chrétienne, ça faisait partie de l'oraison la semaine dernière. Que Dieu, quand il met un désir divin, Dieu ne déçoit jamais le désir divin, il donne plus. Et ça, c'est peut-être le propre de l'espérance chrétienne. C'est peut-être le problème de l'espérance chrétienne. Quand saint Thomas étudie l'espérance théologale, il étudie la ratio d'espérance. Il ne dit pas l'espérance surnaturelle chrétienne. Il fait ça pour la foi aussi. Il étudie ce que c'est que la foi, la ratio fidei, mais il n'étudie pas le mode chrétien. Et c'est ce que nous faisons, nous essayons d'étudier ce mode chrétien. Parce qu'il n'est pas explicité dans la somme. Et parce qu'il n'est pas explicité dans la somme, comme les théologiens sont toujours fatigués et ont beaucoup de rêves, ils n'ont pas explicité. Et l'explicitation de ça exige la théologie mystique. Parce que c'est par la finalité. Vous voyez, j'insiste pour vous faire comprendre que la théologie mystique, c'est pas quelque chose du supplémentaire, la piété. Non, non, non. C'est pour nous. L'achèvement de notre théologie. Saint Thomas ne l'a pas achevé. Il est mort très jeune. Ça aurait été merveilleux de le voir de Saint Thomas. Ça aurait évité beaucoup de discussions. Et Dieu n'a pas voulu qu'il achève. Pourquoi Dieu n'a pas voulu? Parce qu'il a voulu des théologiens intelligents. Il n'y a pas que Saint Thomas. Saint Thomas nous met sur des rails. Allez-y, poussez. Allez plus loin. C'est ce qu'on a dit de façon très, très directe en disant la fidélité de Saint Thomas, c'est pas des bornes. C'est un tremplin. Et là, réflexion sur l'espérance de Marie, je crois, est très belle pour nous. De voir que Dieu n'a pas déçu, Dieu ne déçoit jamais une espérance, une véritable espérance. Il y a quelque chose de très grand, là. Alors, c'est à partir de là que nous devons voir comment Marie est première dans la grâce chrétienne. Jésus est source et il est Dieu. Donc, il n'est pas chrétien. Il est source de ma vie chrétienne. Et ma vie chrétienne dépend de lui. Puis, il est fils bien-aimé du Père. Donc, transcende la grâce chrétienne dans le cœur du Christ et dans un mode éminent. La grâce chrétienne est dans un mode éminent dans le cœur de Jésus. Et Jésus est unique. Immédiatement après Jésus, vient Marie. Alors, la grâce chrétienne en Marie, venant qualifier son âme, Marie est la première. Parce que elle est la première créature, la plus parfaite, la plus aimée. Et ça, cela fait partie de ma foi, dire ça. Marie a une priorité de la grâce chrétienne dans l'immanence. Le Christ est extrinsèque, il dépasse, il est au-dessus de l'immanence. Et c'est très important. Bien voir ces deux aspects de la grâce chrétienne en le Christ et en Marie. Donc Marie est première dans l'immanence de la grâce chrétienne. Et parce qu'elle est première dans l'immanence de la grâce chrétienne, elle est la mesure de toute grâce chrétienne. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas de les noter.